dur à avaler, le blog qui dissèque méthodiquement les idées reçues sur la santé. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de 4 signaux d'alerte d'un possible cancer colorectal précoce selon les tout derniers résultats de la recherche scientifique. Alors ces fameux signaux d'alarme, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Une vaste étude américaine a suivi près de 100 millions de personnes aux États-Unis pour tenter de trouver des signaux précurseurs qui pourraient annoncer un cancer colorectal. Mais pourquoi faire un tel travail, me direz-vous ? Car la détection précoce de ce cancer augmenterait mécaniquement les chances de survie des patients avec des tumeurs opérables sans métastase. Au terme de cette vaste analyse, où plus de 5000 cas de cancer du côlon rectum ont eu lieu pendant 10 ans, 4 signaux apparaissent importants pour alerter sur le développement précoce d'un éventuel cancer. Le premier, des saignements dans les selles. Le deuxième, une anémie en fer. Le troisième, des douleurs abdominales. Et finalement, le dernier avec des diarrhées. Avoir un seul de ces symptômes est associé, selon l'étude, à un risque multiplié par 2 d'avoir un cancer colorectal dans les 3 mois à 2 ans. Ce risque augmente dramatiquement avec 2 symptômes qu'on multiplie par 3,6 et à partir de 3 symptômes qu'on multiplie par 6,5. L'association était la plus forte pour les jeunes adultes de moins de 45 ans. Alors, les saignements dans les selles entraînent bien souvent une forte inquiétude et une consultation chez un spécialiste, mais même dans ce cas-là, les scientifiques trouvent un délai relativement important avant le premier diagnostic, estimé à 7 mois en moyenne. Alors, quelles sont les limites à prendre en compte devant ces résultats et cette étude ? Bien sûr, ces informations ne doivent pas nourrir une crainte infondée à la moindre douleur abdominale ou épisode de diarrhée. Il faut savoir raison garder et contextualiser les symptômes en évitant le fameux fear-mongering ou l'alarmisme. Une diarrhée ponctuelle sans autres symptômes, à la suite par exemple d'une intoxication alimentaire ou d'une prise d'antibiotiques, n'a aucune raison d'inquiéter. La concomitance de certains symptômes ainsi que leur persistance sans explication valable doivent cependant vous amener à consulter pour réaliser des examens complémentaires. L'anémie en fer avec du sang dans les selles serait, selon les auteurs, les 2 symptômes les plus fortement associés au risque d'un diagnostic de cancer colorectal. Alors officiellement, il n'y a pas de recommandation de dépistage du cancer colorectal avant 50 ans. Et l'Institut national du cancer propose une liste générale de symptômes qui doivent nous alerter en cas de persistance et d'aggravation pour tous les cancers d'une manière générale. Mais cette étude met tout particulièrement l'accent sur le cancer colorectal, sans toutefois apporter des preuves solides que surveiller ces signaux pourrait être utile. Car l'étude remonte dans le temps pour essayer de trouver les symptômes le plus souvent associés au cancer diagnostiqué. C'est ce qu'on appelle une étude rétrospective. Les chercheurs n'ont pas évalué l'intérêt, par exemple, de surveiller spécifiquement ces 4 symptômes pour faciliter la détection des cancers et améliorer ainsi les chances de survie. Il faudrait suivre des milliers de personnes dans de vastes études pendant longtemps, car ces cancers, ils peuvent prendre du temps à se former. Ces symptômes peuvent aussi ne rien avoir avec un éventuel cancer colorectal, d'où l'importance, comme je vous le disais, de contextualiser les apparitions et consulter en cas de doute. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un dépistage sauvage ? Est-ce qu'on ne s'approcherait pas dangereusement d'une forme de ce que je vous dis, un dépistage sauvage sans d'une maladie, mais sans cadre scientifique vraiment rigoureux. Alors le dépistage du cancer colorectal est organisé à partir de 50 ans, officiellement chez des personnes en bonne santé. C'est en fait le principe même du dépistage. On va regarder régulièrement certains marqueurs chez des personnes ne présentant aucun symptôme particulier. Le dépistage doit être évalué au cas par cas. Pour certaines maladies, le dépistage est très efficace, sans risque notable. C'est le cas du frottis pour le cancer du col, par exemple. Alors qu'il est débattu pour d'autres cancers, comme avec le dépistage mammographique du cancer du sein, voire non recommandé dans d'autres cas avec celui du cancer de la prostate par le dosage des PSA. Bref, dans notre cas, on parle du déclenchement d'une consultation et d'analyse complémentaire dans le cadre de symptômes évocateurs d'un problème de santé. On sort donc du cadre rigoureux où l'on ratisse largement et sans finesse la population avec des dépistages. Pour aller plus loin, Vous devez savoir que le cancer colorectal est le troisième au niveau mondial. On estime que 70% de ces cancers viennent de notre environnement, alors que les 30% restants auraient une origine génétique. Alors sur les cancers génétiques, un célèbre adage d'un chercheur en obésité, George Bray, nous prévient que la génétique charge le pistolet et c'est notre environnement qui presse la détente. Une métaphore pour nous rappeler que l'on a des leviers à notre disposition pour réduire le risque d'avoir un cancer colorectal. Comme augmenter sa consommation de fibres? Eh bien, j'en parle en détail dans deux articles que je vous invite à découvrir, hein. Le premier plutôt généraliste et optimiste, et le second beaucoup plus critique avec l'analyse des résultats des essais cliniques qui laissent la place au doute. Les kilos en trop et les sorties un peu trop nombreuses au bar font partie des choses que vous pouvez changer pour réduire votre risque de cancer colorectal, même si, je le reconnais, c'est loin d'être simple. Il faut essayer de perdre du poids et de réduire sa consommation d'alcool. Le blog regorge d'articles sur des méthodes pour perdre du poids. N'hésitez pas à vous rapprocher d'addictologues si votre consommation d'alcool est très problématique notamment. La cigarette est associée au cancer du colorectum avec plus ou moins de certitude. Dans le doute, vous savez très bien que vous n'avez de toute façon que des avantages d'arrêter de fumer, donc ne pourquoi pas commencer. Finalement, la consommation excessive de viande transformée comme les charcuteries n'est pas vraiment une bonne idée pour éviter ce cancer, surtout si votre alimentation est défaillante en fruits et légumes et que votre hygiène de vie n'est pas idéale. Quant à la viande rouge, eh bien je dois dire que c'est plus délicat. La prudence m'invite à conseiller des apports raisonnables, surtout si ces derniers viennent exclusivement de barbecue avec une belle croûte noircie aux flammes, mais j'y reviendrai très prochainement pour faire le point dessus. Merci d'avoir écouté ce podcast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos amis sur vos réseaux favoris ou l'envoyer par mail. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, de nouveaux articles et n'hésitez pas à soutenir ce travail d'investigation 100% indépendant en vous abonnant et en continuant de nous suivre. À bientôt!